l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Souillac, 104.8.
Et c'est avec toujours le beau temps, et ça fait du bien, le beau temps et la température qui repartit à la hausse, et ça fait du bien de se retrouver pour ce 12-13 heures. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est un grand plaisir pour moi de passer ces quelques minutes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être lourd pour certains, surtout si vous accompagnez quelqu'un qui est addict à l'alcool, à la drogue, ou autre, d'ailleurs au jeu même. Eh bien, nous allons découvrir une structure qui se trouve dans tous les départements de France. Avant, ça s'appelait l'AMPA, l'Association Nationale de Prévention en Alcoolologie et Addictologie. Maintenant, ça s'appelle Addiction France. Je vous propose d'écouter une émission spéciale qui a été faite par David Torchala et ses collègues, que ce soit Delphine Pereira pour le groupe La Dépêche, ainsi que Anne Deloy. Ils reçoivent aujourd'hui Vincent Ricarère, qui est chargé de prévention, donc Addiction France. Et puis, on ira faire un petit tour, une rando autour de Lourdes, grâce à l'Office de Tourisme, comme nous le faisons chaque mardi. Voilà pour le sommaire de ce magazine, mais tout de suite, voilà l'essentiel de l'actualité avec Lou Donville. Bonjour Lou.
Le 19 février, la CCE, la Commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, a approuvé à la quasi-unanimité les mesures de restriction du trafic nocturne des vols commerciaux. Une décision a été prise, l'interdiction en cœur de nuit, au plus tard au 31 décembre 2028, du vol de fret de Chronopost qui circule actuellement 5 fois par semaine aux alentours de 3h du matin. Pour rappel, ce projet d'arrêté interministériel est parallèlement soumis à consultation publique jusqu'au 5 avril. La ville de Bagnac-sur-Célé devient la première commune du Grand Figeac à adhérer au dispositif de participation citoyenne en collaboration avec la gendarmerie du Lot. Une quarantaine de personnes ont participé à cette information collective, notamment sur la prévention de la délinquance. La mission de ces volontaires serait quant à elle d'être l'intermédiaire entre les citoyens et les forces de l'ordre sous la responsabilité des gendarmes. Fin avril, le Domus Hostel va s'installer dans l'ancien hôtel de l'Étoile à Lourdes. Le concept repose notamment sur un prix unique à 10 euros par nuit et par lit, pratiqué toute l'année sans variation tarifaire saisonnière. L'hôtel intégrera également une salle de recueillement inspirée de la grotte de Lourdes, pensée comme un espace de silence et d'introspection, ouvert à tous, croyants ou non. À l'occasion des 200 ans de la création de la photographie, Palmier organise une exposition de photos anciennes dans le centre historique de la ville. La première photographie de l'histoire a été prise en 1826-1827. La mairie de la commune va mettre en valeur des photographies apaméennes de cette époque, disposées le long d'une balade. Derrière chaque image installée sur la voirie, on pourra observer un avant-après de la ville et constater ses évolutions. Après son installation, l'exposition perdurera pendant un an.
Merci beaucoup Lou Donville, voilà, qui est étudiante à l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Je vous propose de découvrir une structure qui s'appelle Addiction France. Il y en a dans tous les départements, et si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même avez besoin d'aide, eh bien écoutez, je vous conseille d'écouter cette interview. On reçoit cette semaine Vincent Ricarère.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Bonjour à tous et aujourd'hui dans l'heure de pointe, on s'arrête sur un sujet qui touche toutes les générations, souvent en silence, on va parler des addictions. Nous sommes ensemble pour 35 minutes, 40 minutes d'émission avec vous Delphine Pereira, comment allez-vous ?
Je vais très bien, je suis ravie d'être là avec vous, Anne. Et donc notre invité pour ce sujet très sérieux, sauf que moi je suis addict à l'émission.
Addict à l'heure de pointe. Vous aussi Anne Deloye, vous êtes addict à l'heure de pointe.
Moi je suis addict à nos rencontres, Delphine et David, c'est toujours une grande joie de vous retrouver.
Bon, permettez-nous de plaisanter un petit peu sur l'addiction. Vincent Ricarère, vous qui êtes chargé de prévention à Addiction France, on va... faire un panorama un peu de ces addictions, l'alcool, le tabac, la drogue, mais aussi les jeux d'argent, les écrans, mais enfin plus largement ce qui rend addict aux écrans, les réseaux sociaux, les jeux, et puis aussi les comportements compulsifs, les formes d'addiction évoluent et nos façons d'y répondre aussi. Alors avec vous Vincent Ricarère, on va entrer à l'intérieur d'Addiction France, cette association nationale qui a une représentation dans les Hautes-Pyrénées, notamment à Tarbes, à Lourdes, à Bagnères-de-Bigorre, si je ne me trompe pas.
Oui, et à Vic.
Et à Vic en Bigorre. Voilà une manière aussi d'être au plus près des habitants, de les accompagner dans la prévention, dans l'écoute, dans l'accompagnement.
Dans le soin au sens large, tout à fait.
Dans le soin aussi, alors... Pour démarrer, vraiment, est-ce que vous pouvez nous présenter quelles sont les actions d'Addiction France ici, dans les Hautes-Pyrénées ?
Oui, merci d'abord de votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi, justement, pour parler de ce sujet important qui concerne tout le monde. On en entend parler souvent, et des fois, malheureusement, un peu à tort et à travers, voilà, mais dès qu'on a l'occasion, justement, de pouvoir échanger de manière objective, mais de manière aussi... un peu décalé pour sortir du négatif, de la maladie, des risques ou autres. On peut parler aussi d'addiction de manière tout à fait positive. Il y a la question du plaisir qui est importante, on y reviendra. Donc moi, voilà, je suis éducateur spécialisé à l'association Addiction France, qui est une vieille association qui a plus de 150 ans d'existence, fondée par Pasteur à l'époque.
D'accord.
Et le premier nom, c'était la Ligue anti-alcoolique.
Voilà.
Oui, mais à l'époque, évidemment, on n'était pas ni dans la prévention, ni dans le soin, ni dans l'accompagnement. L'idée, les alcooliques, c'était de mettre de côté de la société et d'enfermer les alcooliques.
Ah,
voilà. C'est pas la même chose aujourd'hui.
Ça
a évolué. L'association a évolué. Le nom a évolué. L'émission, tout au long de l'évolution, du regard que la société a porté sur l'alcoolisme, puis sur les addictions et l'addictologie aujourd'hui. Donc, l'association a eu plusieurs noms. Elle s'appelle aujourd'hui Addiction France. On est à peu près 2000 salariés au niveau national. Donc c'est d'abord essentiellement des salariés qui composent l'association. Et ici, dans le département, dans l'antenne des Hautes-Pyrénées, on est 12 avec deux chargés de prévention, deux médecins addictologues, une directrice, deux secrétaires, une psychologue, deux infirmières et on est trois travailleurs sociaux pour décliner les différentes missions de l'association qui sont essentiellement la prévention et le soin. Parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Ah oui, alors justement, est-ce qu'on peut entrer un peu là-dessus ? Donc prévention et soin, c'est systématique. Parce que vous dites pas l'un sans l'autre, on peut aussi prévenir pour ne pas tomber dans l'addictologie.
Bien sûr. Et le soin, c'est aussi faire de la prévention, par exemple la prévention de la rechute. Quelqu'un qui a décidé d'arrêter de consommer, mais on verra que le soin en addictologie ne se résume plus à la question de l'abstinence. Là, je lance de suite un pavé dans la mare,
ouais.
Parce que c'est pendant longtemps, c'était ça. Les personnes qui venaient nous voir il y a 25 ans, quand j'ai commencé en alcoolologie, on aidait les personnes, on les aidait à arrêter de boire. Il n'y avait pas d'alternative.
Ouais.
La personne qui prenait une drogue, on l'aidait, en gros je schématise et je caricature à outrance, on l'aidait à arrêter de prendre une drogue. Aujourd'hui, on continue à aider on part des objectifs des personnes. La personne vient nous voir parce qu'elle a des difficultés liées à sa consommation et on va lui demander d'abord qu'est-ce qu'elle veut faire de sa consommation. Est-ce qu'elle est plutôt dans un objectif d'arrêt complet ? Ou est-ce qu'elle est dans un objectif de réduction de sa consommation? On fait aussi de la réduction des risques. Alors, on va essayer de développer un petit peu tous ces termes qui peuvent paraître abstraits pour le citoyen lambda, mais qui ont du sens quand même.
Mais partir en tout cas de la volonté de la personne, ou en tout cas, enfin, est-ce qu'il y a toujours une volonté de guérir, de s'en sortir, en fait?
De se soigner. On verra la notion de guérison.
Ouh là là, je crois que j'ai commis pas mal de maladresses, mais c'est important de nous reprendre,
tout cas. Oui, tout à fait, parce que quand on ne sait pas, c'est pas... Voilà.
Mais c'est pour ça que vous êtes là, pour nous faire savoir.
Moi, je suis convaincu que une personne addicte a envie de s'en sortir, a envie d'aller mieux. Toute personne, raisonnablement, sauf s'il y a des pathologies psychiatriques avec des idées suicidaires ou autres, mais une personne qui a une addiction... et qui, en général, vit pas bien avec cette addiction, puisqu'elle a des conséquences négatives, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes familiaux, professionnels, judiciaires, elle aimerait se soigner, elle aimerait aller mieux. Mais c'est difficile, c'est compliqué, parce que il y a plein de choses personnelles, individuelles qui se jouent, et du coup, les personnes, après, il y a le regard aussi qu'on porte sur ces personnes qui peuvent, des fois, même, être un frein aux soins.
Justement, Vincent, est-ce que dans votre rôle d'éducateur spécialisé dans ce domaine-là aussi, vous accompagnez bien sûr des personnes donc, qui souhaitent s'en sortir, mais est-ce que vous arrivez à les aider à déterminer les causes de l'addictologie? Est-ce que c'est tout un travail d'accompagnement et de recherche, pourquoi elles en sont arrivées là?
C'est le plus important.
Voilà.
En fait, c'est le plus important. C'est pas l'objet d'addiction. Je veux pas dire que c'est secondaire, hein, parce que bon, il y a quand même, il faut le prendre en compte, etc. Mais derrière l'addiction, derrière la consommation excessive d'alcool, de drogue, de jeux, de sport, de tout ce qu'on peut imaginer, de sexe, d'achat, il y a des histoires de vie. Il y a des fragilités, il y a plein de facteurs de vulnérabilité, il y a des traumatismes, beaucoup, il y a des formes de précarité, d'exclusion, d'isolement, et c'est tout ça qui est pour nous le plus important. C'est ça qui fait que la personne elle va pouvoir à un moment donné se rétablir, aller mieux, se soigner, et du coup c'est plus forcément parler d'alcool ou autre.
Faut mettre des mots sur les causes, quoi.
Oui, tout à fait.
Delphine Pereira.
Et sur les raisons justement qui poussent ces gens à venir vous voir, il y a, je suppose, les gens qui le font de leur propre chef parce qu'ils se sentent mal, ils ont un problème, ils s'en rendent compte. Mais il y a aussi des gens qui sont forcés aussi. Vous avez tout un panel de personnes qui viennent chez vous.
Oui, il y en a qui on peut venir de soi-même. Ça, c'est toujours le mieux. Demander de l'aide, d'accord, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est difficile, c'est compliqué, tout le monde nous le dit autour de nous, effectivement, on est une structure qui pouvons recevoir, aider, accompagner les personnes, mais il y a des personnes pour qui ça va être un tiers, quelque chose d'extérieur qui va pousser ou faciliter le fait de franchir la porte
comme,
de chez
comme
nous.
Comme quoi, par exemple?
Ça peut être l'entourage. D'accord. Alors l'idée c'est pas forcément d'imposer, de faire du chantage. Si tu vas pas te soigner, je te quitte, par exemple, ou autre. Mais des fois ça peut être bien de mettre des limites. Oui. Évidemment. Donc l'entourage, ça peut être l'entourage, la famille, les amis. Ça peut être un médecin généraliste, un médecin spécialisé, un médecin du travail. Ça peut être un employeur. Ça peut être et la justice aussi. On reçoit à peu près un tiers de personnes qui viennent dans le cadre d'une obligation de soins. Donc là, c'est le juge qui, dans le cadre des sanctions judiciaires, prononce une obligation de soins addictologique parce que la personne a commis des délits sous l'effet de l'alcool ou de drogue. Ça peut être récidive de conduite sous l'effet de l'alcool, des stupes, etc. Donc, la personne, elle vient nous voir. Il faut qu'on va essayer de transformer la contrainte initiale en adhésion. C'est-à-dire expliquer ce qu'on est, ce qu'on va lui proposer, qu'on va pas la juger, qu'on va pas lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse, qu'on va pas lui dire qu'il faut qu'elle arrête de consommer, etc., etc. Mais que ben, y a quand même des soucis liés à sa consommation. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres problèmes à côté des consommations. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des fragilités, on en revient, ça peut être plein de choses. Et donc, ben, y a des personnes qui même, parce que, qui viennent sous contrainte judiciaire, ben, s'en saisissent à un moment donné, nous disent, ouais, effectivement, bon, je viens par rapport à la justice, mais je me rends compte quand même que ça va pas dans mon quotidien, etc. Et j'aimerais, ben, j'aimerais me faire autrement, aller mieux.
Chaque personne est évidemment unique, chaque histoire est différente, et donc vous vous retrouvez là, entrer dans l'intimité de la vie des, des personnes, sur l'écoute, c'est pas facile ça, non, dans votre quotidien?
Non, on est formé pour,
ouais, c'est ça.
On va dire ça comme ça, c'est d'abord, l'accueil est primordial, les premiers accueils pour moi c'est fondamental, où la personne doit se sentir en confiance. Effectivement, que ce qu'elle va dire ben, ne sera pas répété à la justice, évidemment, ou à l'entourage, ou à n'importe qui. Donc on est tous soumis au secret professionnel, secret médical évidemment pour les médecins. Donc il faut mettre la personne en confiance, parce qu'effectivement il va falloir qu'elle s'autorise à parler de difficultés, de fragilités, de plein de choses qui l'ont amené à devenir addict. Mmh. On ne devient pas addict par hasard.
Ce sont des processus qui sont assez longs. Je vais pas dire dans la guérison, parce que, pas dire guérison, mais dans la prise en charge.
On est sur des prises en charge longues. Alors déjà, le processus qui mène à l'addiction peut être plus ou moins long. Mmh. Alors il y a des produits dont on peut devenir dépendant très rapidement. Voilà. Par après, exemple, chaque produit a un côté addictif. Ben, le produit le plus addictif, d'après vous, c'est lequel? Si vous deviez.
J'irai l'alcool, mais je sais pas.
Non.
Le cannabis.
Est très peu addictif.
Oh, le cannabis.
Non. C'est un produit légal.
Ah. Les écrans.
Dans les médicaments.
Non. Un produit.
Ah,
un produit. Non. Un produit. Un produit. Un produit psychotrope.
Ah.
Qui est légal.
Le Prozac.
Le tabac.
Oui.
Ah, c'est le tabac.
Ah, bien sûr.
Le tabac, eh oui, la nicotine est très addictive, notamment parce qu'elle est fumée. Et quand on fume un produit, c'est le plus toxique et c'est le plus addictif, parce que quand on fume, on a de suite un shoot de nicotine au niveau du cerveau. Donc le tabac, c'est le produit le plus addictif.
On vient souvent pour le tabac, vous consultez.
On en reçoit, oui, on reçoit aussi pour le tabac. De manière individuelle, donc on a les.
Parce que presque, il n'y a pas de. Pardon, mais peut-être pas d'ordre de gravité dans l'addiction, mais peut-être un peu quand même. Est-ce qu'il y a en fait une échelle? Est-ce que le tabac est le niveau 1 de la gravité de l'addiction? Non, oh. c'est pas pour.
Il y a quand même pas mal de conséquences. Il y a quand même beaucoup de dommages sanitaires, le
évidemment.
Tabac. C'est le premier produit qui tue en France.
Et c'est bien écrit sur les paquets de cigarettes.
Oui. Les messages sur les paquets de cigarettes n'ont aucun impact sur les fumeurs.
Je crois.
D'accord. Mmh. Mais le tabac, c'est le produit qui, quand même, cause beaucoup de décès, de problèmes de santé. Donc, il faut s'en occuper, bien sûr, comme toute addiction. Voilà. Mais, effectivement, il a une nocivité individuelle. Alors, il peut y avoir le tabagisme passif, évidemment. Mmh. Mais 70 000 décès, première cause de mortalité évitable, facteur important de cancer, problème de circulation sanguine, etc. Sur les artères, bon voilà, il y a pas mal de complications sanitaires avec le tabac, c'est important de le prendre en compte. Donc oui, on peut recevoir pour le tabac en individuel. Et là, on vient même de monter depuis ce mois de janvier un groupe. Une fois par mois, on propose sous forme de groupe aussi un atelier thérapeutique autour du tabac, avec notamment des éléments motivationnels. Parce que ce qui compte dans pourquoi une personne décide de se soigner, c'est en lien avec des motivations. La contrainte, elle est pas c'est pas forcément le levier le plus important. Quelqu'un va pas décider d'arrêter de consommer ou de réduire sa consommation parce qu'il y est contraint. Mais parce qu'il va trouver des motivations à ne plus consommer, à moins consommer, à se rétablir, en fait.
Parce que, Pardon, Delphine Pereira.
Est-ce que justement, sur le domaine du tabac, est-ce que les augmentations successives là, du prix du paquet de cigarettes ont un effet ou c'est juste cosmétique ?
Oui, ça impacte quand même, ça a contribué à faire diminuer le nombre de fumeurs, mais pas forcément les personnes les plus précaires ou qui auraient le plus besoin d'aide en fait. Et du coup, ça va mettre encore plus en difficulté les personnes les plus précaires parce qu'elles vont continuer de fumer parce qu'elles n'ont pas le choix. L'addiction, c'est quand on n'a plus le choix de consommer ou de pas consommer. C'est ça l'addiction. On est rentré dans le vif du sujet, mais voilà, l'addiction, c'est la maladie de. On dit c'est la maladie de la perte de contrôle. C'est-à-dire j'ai perdu le contrôle de ma consommation d'alcool, de tabac, de drogue, de jeu, de sport, de sexe, d'achat, de travail. Voilà, c'est plus moi qui régule, qui peut consommer quand je veux, à quel moment, la quantité. C'est mon cerveau qui me commande, malgré moi. Et du coup, je vais consommer malgré moi. Malgré ma volonté de pas consommer, je vais quand même le faire. Voilà, c'est ça, réellement, l'addiction. Donc, c'est un processus. Vous disiez la notion de temps. Mais déjà, bon, ça met plus ou moins de temps à s'installer, l'addiction. Donc, le tabac, c'est très rapide. L'alcool, c'est très long. Ça met 10 ans, 15 ans... avant de s'installer, donc voilà, et ça met plusieurs années à s'installer, et le rétablissement, le soin, on est sur des prises en charge et des processus longs aussi.
Le rôle des médecins addictologues qui sont dans votre association, donc ils sont là sur le soin, donc c'est forcément un traitement médicamenteux, c'est adapté, alors vous n'êtes pas médecin, mais bon, vous connaissez ça. Quel est leur rôle là? Parce qu'une fois qu'on a écouté, accompagné, on essaie de trouver un intérêt à consommer d'une manière différente, à un moment il y a le soin. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait?
Alors, le soin médical.
Médical.
Parce que moi je considère que je suis aussi dans le soin.
Ah oui, oui, pardon.
Même
pardon.
Si je suis pas un soignant au sens.
Oui, d'accord.
Mais,
ouais.
Le soin, même l'entourage peut faire partie du soin, de la démarche de soin, plein de personnes où il y a plein de d'outils thérapeutiques.
Est-ce qu'on est malade en fait quand on est addict?
Ah, est-ce que l'addiction c'est une maladie?
Est-ce que l'addiction c'est une maladie?
Non, parce que qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que oui. Dans la mesure où ça doit se soigner, c'est une maladie.
Et oui, si on parle de soins, de traitements médicamenteux, de plein de choses, oui, c'est une maladie. Il faut considérer l'addiction comme une maladie. Parce que si c'est pas une maladie, ben autrefois, il y a 150 ans, c'était un vice. Mm-hmm. L'alcoolique.
Ah oui.
C'était on le considérait comme un bon à rien, quelqu'un qui...
Est-ce que c'est pas encore un peu ça aujourd'hui?
Et trop à notre goût. C'est pour ça que c'est important qu'on fasse de la pédagogie et qu'on puisse répondre à des émissions comme cet après-midi, justement, pour pouvoir informer le plus grand nombre. Parce que si on veut aider quelqu'un qui a une addiction, si on considère que c'est pas une maladie, souvent, on considère encore des personnes considère que c'est un manque de volonté. La personne qui arrive pas d'arrêter de consommer, c'est parce qu'au fond de lui, il n'a pas vraiment de volonté, ou la personne
trop
qui
faible.
Rechute, voilà, c'est une faiblesse.
Bah, c'est papa, quand même, tu bois trop, tu pourrais quand même mettre du tien. Non, bah, pardon.
T'as repris la cigarette, vraiment, t'étais pas très motivé, ou t'as pas de volonté. Non, l'addiction, c'est une maladie du cerveau, donc c'est une maladie psychiatrique. D'accord, ça rentre dans le champ de la santé mentale, des troubles de la santé mentale. C'est une maladie, voilà, d'ordre psychiatrique qui se soigne. Il y a différentes manières de se soigner. Je pense qu'on va en parler. Mais c'est d'abord une maladie du cerveau. Voilà, il y a une lésion qui se crée au niveau du cerveau et qui fait qu'on va consommer. Alors qu'au fond de nous, on n'a pas forcément envie, on aimerait faire autrement, on sait qu'on a des problèmes, on sait qu'on a des problèmes de santé, on sait qu'on a des problèmes familiaux, judiciaires, etc. Mais il y a quelque chose qui nous pousse à consommer.
C'est plus fort que tout,
ouais,
comme on dit.
Exactement.
Plus fort que
c'est plus fort que nous.
Nous sommes avec vous, Vincent Ricarère, chargé de prévention pour Addiction France. Voilà, prévenir, accompagner, soigner. Ben, c'est ça, la prévention. Une prévention qui parle vrai, loin des discours moralisateurs. On a plein d'autres questions à vous poser. On marque une pause et puis on revient dans un instant.
L'heure de pointe, David Torchala.
Nous sommes dans la deuxième partie de l'heure de pointe. On parle addiction, Anne Deslois. C'est un sujet important que l'on
oui,
évoque.
Oui, je trouve que c'est un sujet assez grave, sérieux. Et c'est très important que Vincent puisse nous familiariser un peu plus avec toutes ces notions. Et ça nous fait poser un autre regard aussi, peut-être sur tous ceux qui sont addict. Merci Vincent.
C'est important justement cette question du regard qu'on porte, comment on aborde, comment on considère une personne qui a un problème d'addiction. Tout le monde peut être concerné. À un moment donné, soit personnellement, mais on a tous des pratiques addictives, on en parlait, du téléphone portable. Pratique addictive, c'est pas forcément addiction.
C'est ça qui est important en ce moment, hein, sur comment déceler en tout cas la prévention. Moi, j'avais envie de dire, moi je vois beaucoup mon épouse faire pas mal d'achats sur Internet. Est-elle addicte aux achats? Vous, c'est pas votre cas, Delphine Pereira.
Mais non, c'est pas raisonnable.
Non, mais à quel moment, effectivement, on entre dans une addiction? À quel moment il faut alerter, se rendre compte? Quels conseils vous pouvez donner? Pardon, je plaisante un peu avec les achats, mais quoi que vous l'avez cité comme exemple, oui. C'est certainement une addiction.
Dans les objets d'addiction, les achats compulsifs, mais ça peut être le sport, le travail, le sexe, la nourriture. Aussi, il y a certaines formes de troubles du comportement alimentaire, notamment autour du sucre. Voilà, parce que pendant longtemps, on parlait que des produits, produits psychotropes, l'alcool, le tabac, les drogues, en gros. Aujourd'hui, mais il y a les médicaments aussi, certains médicaments anxiolytiques, somnifères, les médicaments antidouleurs, qui peuvent être aussi des objets d'addiction. Donc, il y a des addictions à des comportements. Donc, à quel moment il faut s'inquiéter?
C'est oui,
quand,
c'est ça.
Quand il y a, ben déjà, quand on repère que la consommation commence à devenir excessive. Si elle empiète, si elle a des conséquences négatives, ça peut être un problème judiciaire, ça peut être un problème de santé, ça peut être des troubles du comportement, une forme d'agressivité, de violence ou autre. Voilà, des choses qui inquiètent, des problèmes au niveau du travail. Et quand ça a un impact, voilà, sur le quotidien. C'est ça.
C'est les relations avec les proches aussi.
Les relations avec les proches, voilà, une personne qui commence à s'isoler, éventuellement, ou autre. Voilà, quand on repère on repère pas directement une addiction. Pas de critères physiques. L'addiction, c'est pas une prise de sang. C'est pas une IRM, c'est pas avec un scanner qu'on détecte ou qu'on repère une addiction, hein, d'accord? C'est une évaluation addictologique, voilà, c'est un diagnostic médical avec un certain nombre de critères, mais on peut repérer des signes inquiétants, voilà.
Quand par le comportement d'un des proches et tout ça, peut-être,
ouais,
tout simplement.
Par exemple, quand on repère, voilà, des changements de comportement, oui. Des changements d'habitude chez certaines personnes, ça peut être des problèmes au niveau scolaire chez les jeunes aussi, souvent on va repérer ça, des problèmes financiers. Quelqu'un qui a les achats compulsifs, effectivement, si au bout d'un moment, voilà, si régulièrement, s'il y a un impact sur le budget, les jeux de hasard et d'argent ou autre, l'impact d'abord, il va être budgétaire. Donc, on peut repérer quelqu'un qui commence à s'endetter, etc., qui va dépenser plus qu'il ne gagne, ou qui va commencer à faire des crédits ou à demander de l'argent, à emprunter de l'argent à ses amis, à ses proches, à sa famille, etc. Voilà, ça peut être un signe que voilà. Donc, on repère des choses. Et après, c'est il faut pouvoir en parler de manière la plus objective, se dire ok. Il y a peut-être un problème d'addiction. En tout cas, je suis inquiet pour cette personne. Je peux l'aider, je peux l'accompagner. Je vais pas lui imposer de se soigner ou d'aller dans une structure de soins, mais je peux essayer de l'amener, de l'aider, parce que derrière ce problème d'addiction, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a peut-être des souffrances individuelles, il y a peut-être plein de choses qui font que la personne, ben, à un moment donné, elle a trouvé dans un objet d'addiction, dans un produit, dans un comportement, quelque chose qui va l'aider, qui l'aide. Voilà, il y a une forme d'autothérapie dans toute addiction.
C'est une substitution.
C'est une béquille. Oui. Des fois, les patients, voilà, ils disent c'est ma béquille, c'est mon médicament. Quelque part, ils sont leurs propres médecins et leurs propres pharmaciens.
Ah oui.
Ils apaisent leurs souffrances, leurs difficultés, et ils vont se prescrire X verres d'alcool, des cigarettes, des joints, des rails de cocaïne, plein de choses pour apaiser quelque chose, pour affronter des situations difficiles. Ça peut être un lien avec le travail, ça peut être pour fuir une réalité qui leur convient pas, pour oublier des traumatismes, des difficultés, etc. On est dans de l'autothérapie, en fait.
Ouais. Et là, on parle du soin. Donc c'est quand l'addiction est déjà installée,
oui.
Peut-être depuis des années, mais en prévention, je suppose que vous intervenez aussi, notamment auprès des jeunes.
Oui, tout à fait, oui, évidemment, la prévention, ça s'adresse d'abord aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes.
Oui.
On peut faire même de la prévention chez les personnes âgées. Vous voyez, parce que l'alcool, c'est un important facteur de démence sénile chez les personnes âgées. C'est sous-évalué, sous-diagnostiqué, et c'est un frein au maintien à domicile en bonne santé. Mais souvent, dans les représentations, on dit, ouais, bon, il a 80 ans, 90 ans, il a bu toute sa vie, un petit verre, ça peut pas le tuer. Ben si, ça peut faciliter le vieillissement, mais surtout ça peut l'empêcher de vieillir en pas trop mauvaise santé. Et ça va surtout jouer sur ça peut entraîner des troubles cognitifs sur la mémoire, l'attention, etc. Donc la prévention, elle s'adresse à tous les âges. Effectivement, chez les jeunes, ben c'est bien de pouvoir, avant le début des consommations, donc autrefois on parlait de prévention primaire, c'est-à-dire c'est informer les personnes avant qu'elles commencent à consommer sur les produits. Mais les jeunes, ils sont plutôt bien informés. Si vous voulez connaître ce qu'est le cannabis, etc., etc., demandez aux jeunes. Si vous avez des ados autour de vous, posez-leur les questions, ils vont vous répondre, ou sur le protoxyde d'azote, qui aujourd'hui fait partie des nouvelles problématiques importantes
ça,
chez les jeunes.
Le gaz
hilarant. Ouais. C'est en augmentation. Donc, les jeunes sont informés, mais aujourd'hui, ce qui marche le mieux en prévention, et mes collègues, elles mettent en place des interventions autour de ça, c'est le développement des compétences psychosociales. Pourquoi un jeune, il commence à consommer? Pas parce qu'il veut mourir, ou qu'il veut se faire du mal, ou qu'il veut soigner forcément quelque chose. Mais c'est pour faire comme les autres. Parce que, adolescent, c'est difficile de dire non aux copains qui proposent une cigarette ou autre. Ils ont du mal à s'affirmer. Mais les compétences psychosociales, c'est ça. C'est s'affirmer, c'est savoir dire non, savoir se mieux réagir en groupe, c'est l'empathie, c'est la communication, etc., etc. Et donc il y a des programmes prouvés scientifiquement, le programme Unplugged notamment. Alors effectivement, c'est sur 10 ou 12 séances. Moi, j'ai commencé dans la prévention il y a 25 ans. On voyait des milliers de jeunes chaque année, on les voyait une fois par an, une classe, mais c'était une heure par an. Bon, aujourd'hui, on sait que ça n'a aucun impact. Par contre, effectivement, l'idée, c'est de voir moins de jeunes, et sur plusieurs séances, et notamment travailler sur développer chez ces jeunes les compétences psychosociales pour qu'ils fassent de meilleurs choix quand ils vont être confrontés aux sollicitations, aux produits, etc., parce qu'ils vont y être confrontés.
Dans un futur, oui, mais aussi dans leur présent, il y a aussi cette relation avec les écrans, avec les réseaux sociaux, etc. Comment vous abordez ce sujet avec France Addiction?
C'est de l'éducation à la bonne utilisation des réseaux sociaux, effectivement. L'idée, c'est pas forcément de diaboliser les réseaux sociaux, les écrans, les jeux vidéo ou autres. On le voit aujourd'hui, malheureusement, le débat politique concernant le cannabis, Certaines, voilà, il y a des politiques qui diabolisent le cannabis. Ouais, le cannabis c'est de la merde, etc. On sait que ça n'a aucun impact. Diaboliser quelque chose en matière de prévention, ça n'a aucun impact. C'est parler de manière objective les réseaux sociaux. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui peut être bien dans l'utilisation, mais quelles sont les limites à mettre en place? Et surtout, donc, c'est parler aux jeunes, mais aussi aux parents. Et oui, les parents, ils ont aussi une responsabilité. Évidemment. Donc c'est comment on intègre aussi les parents. Ben ça fait partie aussi de l'éducation, c'est-à-dire arriver à poser des limites. Est-ce que l'écran doit être dans la chambre? Si on laisse un écran dans la chambre en disant aux jeunes, mais à 9h, bon, à 9h, tu poses ton téléphone, t'éteins l'ordinateur, tu joues plus aux jeux vidéo.
Bon, mais bien sûr,
le jeune, il est adolescent, c'est pas un adulte. Mais, d'accord, on ne doit pas considérer un adolescent comme un adulte.
Comme on parlera un adulte.
D'accord, l'adulte, il est capable théoriquement de réguler, de s'auto-réguler, etc., d'utiliser les écrans comme il faut, de
et encore
en tout cas de faire de savoir que oui, ben il y a des moments où on peut bien l'utiliser, on peut l'utiliser, mais il y a des moments où il faut manger, où il faut faire, où il faut aller au travail, etc., etc. On est théoriquement capable de s'auto-réguler, d'accord. L'addiction, c'est quand on perd sa capacité de régulation. Mais l'adolescent, il n'a pas cette capacité de régulation.
Et oui.
Donc c'est pour ça que c'est pas forcément un problème d'addiction au sens où nous on l'entend de perte de contrôle, mais le cerveau de l'adolescent, il n'est pas en capacité de réguler et de s'auto-contrôler. D'accord? Donc si vous laissez un adolescent, si vous le mettez devant un écran le matin, vous le récupérez le soir devant l'écran.
Et oui.
Lui, il est dans l'immédiateté, et puis il est dans, voilà, il y a des applications comme TikTok, etc., etc., le scrolling, là, on est dans l'immédiateté, le truc et le cerveau.
Il y a toujours un truc voilà. qui passe, donc.
Donc, en continu, il n'y a pas de pause ou autre, c'est très addictif, et donc, il va passer sa journée devant les écrans, mais. C'est le rôle des adultes de poser des limites. À un moment de dire, bon, là, stop, ok, t'as joué pendant une heure, deux heures, ben maintenant, il faut faire autre chose. Le soir, pas d'écran dans les chambres. Ça, c'est une règle de base. C'est de l'éducation, tout simplement.
Vous avez parlé de non-jugement, de non-discours moralisateur. C'est vraiment la philosophie, ça, d'Addiction France, de prendre la personne telle qu'elle est, telle qu'elle se présente.
Bah, c'est la base de ce qu'on appelle la relation d'aide.
Ouais.
Quand on veut aider quelqu'un, c'est le non-jugement, qui on est. Bah, si voilà, c'est la
mais
personne.
C'est pas facile parfois. Est-ce qu'on parfois on tombe pas en se disant bah, enfin quand même il pourrait faire mieux, etc. Vous voyez comme l'entourage peut être plus dur dans le jugement. Enfin on peut imaginer.
Bien sûr. Mais nous si on veut vraiment être dans l'aide, dans la relation d'aide, il faut justement sortir de ça.
Alors c'est un conseil à donner aux familles de ne pas être dans le jugement. Comment c'est pas facile ça. Enfin qu'est-ce que vous pourriez dire à
la famille.
Quel conseil pourriez donner à la famille.
Mais déjà, ils peuvent venir nous voir.
Oui.
Et oui, parce que ça, on le sait pas souvent. Donc, on reçoit. Donc, moi, je travaille dans un CSAPA, Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie. Donc, on reçoit, on accompagne, on aide les patients, les usagers, dans leur pratique, dans leur par rapport à leurs problématiques. On les aide à arrêter ou à réduire leur consommation. On n'est plus forcément dans la logique de l'abstinence pour tout le monde. Je l'ai dit. On les aide sur un plan médical, psychologique, social. Mais le plus souvent, effectivement, ils vivent pas tout seuls. Ils ont des proches qui sont en souffrance, qui savent plus quoi faire, qui ont tout essayé. On a essayé d'être sympa, ça a pas marché. On a essayé de le piquer, de lui rentrer dedans, ça a pas marché. Donc ils sont démunis. Il y en a même qui tombent malades du fait de l'addiction de leurs proches. Ben ils peuvent venir nous voir. Voilà. Même si leur proche ne veut pas se soigner. N'a pas envie de venir nous voir parce qu'il y a plein de freins vers le soin. Mais nous, on reçoit aussi les proches, l'entourage. Donc moi, régulièrement, je reçois des membres de la famille en général, mais des fois, ça m'est arrivé de voir des amis, même des fois des collègues de travail qui s'inquiétaient, qui savent plus quoi faire et ils demandent de l'aide. Donc on les reçoit.
Anne Deloye.
Oui, je pense que dans toutes vos activités, il y a des groupes de parole qui sont mis en place aussi. Est-ce que les gens donc, qui ont une addiction se rendent compte de temps en temps avec justement des addictions même diverses, différentes, mais où ils peuvent parler. Est-ce que ça existe, ça, ces groupes de parole?
Ça existe. Alors, nous, au niveau d'Addiction France, dans les Hautes-Pyrénées, on n'a pas de groupe de parole comme vous le décrivez. C'est d'abord du suivi individuel.
D'accord.
Un accompagnement individuel, individualisé. On est financé par l'assurance maladie, c'est-à-dire c'est gratuit. Tous les entretiens, les consultations sont gratuites pour les personnes. Donc, on reçoit des fois même des personnes qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de droits sociaux à jour. Ben après, c'est notre boulot de travailleurs sociaux de les aider à avoir une mutuelle, etc. C'est d'abord de l'individuel. Voilà, c'est une prise en charge, un accompagnement individuel, autant de temps que de besoin. On propose après des ateliers thérapeutiques. Alors, on n'a pas de groupe de parole, donc j'ai dit, il y a un atelier tabac, il y a un atelier marche pour retrouver un peu d'activité physique aussi.
Relaxation, par exemple.
Alors, on l'a plus parce qu'on n'a plus la personne formée, mais ça pourrait être atelier relaxation, effectivement. On n'a pas du coup de groupe de parole, mais il y a des structures dans les structures hospitalières qui proposent des hospitalisations pour l'arrêt complet des produits.
On est en train de se dire, c'est que le groupe de parole un peu des alcooliques anonymes, comme on peut voir dans les films américains, etc. C'est plus ça.
C'est dans les films. On caricature.
On caricature.
Alors effectivement, il y a toujours les mouvements d'anciens buveurs, les mouvements d'entraide qui existent. Dans les Hautes-Pyrénées, vous avez les alcooliques anonymes, l'association Vie Libre avec Raphaël Agras qui est très très actif. Et voilà, c'est des groupes de parole. C'est vraiment centré sur l'entraide, la reconnaissance entre pairs aussi, c'est-à-dire le partage de personnes qui ont vécu, qui vivent la même maladie. Donc voilà, nous, c'est un autre accompagnement. Après, c'est chacun. Voilà, il n'y a pas d'accompagnement type en addictologie, ça n'existe pas. D'accord. Ce qui est valable pour moi, par exemple, par rapport à mon tabagisme, ce n'est valable que pour moi. Ce qui a marché pour moi, ce n'est valable que pour moi. Et du coup, chaque démarche de soins est vraiment individuelle et individualisée.
Ouais. Vincent Ricarère, une dernière question. Vous nous avez dit, vous avez 25 ans d'expérience dans la prévention sur l'addictologie. Comment voyez-vous le département des Hautes-Pyrénées aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu une aggravation de l'addictologie proche de nous, une mutation? Quel est votre regard sur ces 25 années et sur la population locale?
Alors, c'est vrai que de manière générale, c'est difficile de centrer vraiment sur l'Haute-Pyrénées, mais c'est vrai que l'addictologie a beaucoup évolué. On va dire, ça a presque plus rien à voir, l'accompagnement, même la prévention, le soin entre ce qu'on faisait il y a 25 ans et aujourd'hui. Ça veut pas dire que ce qu'on faisait ou disait il y a 25 ans n'avait pas de sens. C'est qu'à l'époque, c'était par rapport aux connaissances.
Est-ce qu'aujourd'hui, on vous consulte plus? Est-ce qu'il y a plus d'actions?
Oui.
Est-ce qu'on
alors, il y a plus, effectivement.
Mais est-ce qu'on prend en compte peut-être d'autres addictions?
Le fait de considérer vraiment l'addiction comme une maladie qui se soigne, mais qui se soigne de plein de manières différentes, d'avoir un autre regard sur l'addiction, que ça soit de la part des soignants, des médecins, de l'entourage, etc., ça facilite l'accès vers le soin. Ça facilite vraiment. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui demandent de l'aide, qui nous consultent. Après, du coup, ça fait qu'on, forcément, on peut pas répondre. On a des délais d'attente. Il faut le savoir. Si une personne appelle cet après-midi à Tarbes pour être reçue, elle sera reçue minimum dans 2 mois. Ça c'est la réalité, mais c'est la réalité de toute structure de soins. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, l'addiction c'est une maladie chronique, donc ça se soigne pas. C'est pas une grippe, donc ça prend du temps. Donc effectivement, voilà. Bon, il y a les prises en charge ont beaucoup évolué. Les traitements, il y a des traitements médicamenteux qui marchent très bien. C'est une maladie qui se soigne. Il faut garder espoir. Ça c'est important aussi bien du côté des usagers que des proches, et voilà, il faut y croire, d'accord. C'est voilà, on peut se soigner, se rétablir, et il faut surtout en parler de manière objective. Voilà, il y a ben, les Hautes-Pyrénées. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit département, ben tout le monde se connaît, enfin, tout le monde se connaît. En tout cas, on travaille bien avec les autres structures.
Rassurez-nous, il y a un réseau qui marche bien. Nos auditeurs qui nous écoutent dans le Gers, dans le Béarn, il y a évidemment aussi France Addiction.
Partout, Addiction en France, voilà, on est une structure quasiment présente quasiment dans tous les départements de France, mais sinon il y a d'autres structures de soins, hein. Dès que ça pas, vous en avez au moins deux par département.
Alors il faut se renseigner, parce que face aux addictions, voilà, ni honte ni fatalité,
tout à fait.
Il faut consulter. Merci beaucoup Vincent Ricarère d'être venu nous parler de ce thème.
Merci à vous de m'avoir invité.
Vous avez vraiment tout notre soutien, je crois, dans cette mission, voilà, à transmettre à l'ensemble des équipes de France Addiction. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois. Vous serez là.
Oui.
Bon, attention à l'addiction au travail. Vincent Ricarère a dit qu'elle existait, l'addiction au travail.
Le workaholisme, on parle ça.
Attention. Allez, merci à tous et à une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Allez, on termine avec cette pointe d'humour. Bon appétit si vous êtes à table dans un petit quart d'heure. Ce sera le grand journal national et international de la rédaction française de Radio Vatican. Moi, dans quelques instants, avec Gilles Galbardi, on vous amène tout simplement faire une rando autour de Lourdes. C'est la chronique que nous propose l'Office de tourisme chaque mardi. Et puis, juste après, donc, ce sera le journal de 13h avec Radio Vatican, je vous lisais il y a un instant.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Que les traces de vos pères jamais ne s'effacent, que la santé vous garde et que des enfants vous chantent un jour. Votre jolie lumière, votre grâce. Soyez curieux, ne cessez jamais d'apprendre. Voir, écouter, sentir, entendre. À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent. Jamais ne vous abîme. À la musique, à nos rires, qu'ils sachent nous réunir.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
5 balades pour découvrir Lourdes et ses alentours. C'est aujourd'hui le thème de notre chronique avec Laurent que j'ai le plaisir d'accueillir en studio. Bonjour Laurent.
Et bonjour Gilles, comment ça va ?
Bien, vous faites partie de l'office de tourisme de Lourdes et chaque semaine on vous retrouve pour visiter Lourdes et le pays de Lourdes. Et aujourd'hui vous avez décidé de nous emmener en balade.
Exactement, l'idée c'était de vous donner 5 exemples de promenades, balades, randonnées aux alentours de Lourdes de façon à pouvoir sortir en famille, en couple, voilà, et découvrir en fait les alentours de la ville.
Alors quand on dit balade, ce sont des balades accessibles, hein, vous l'avez dit, c'est familial, il ne faut pas avoir une condition physique exceptionnelle.
Voilà, ça, on va avoir des balades effectivement très familiales où là c'est presque la balade du dimanche, et on a des petites randonnées qui sont pas ultra techniques. Par contre, effectivement, comme toute chose, on recommande de s'équiper comme il faut au niveau des chaussures, de s'équiper comme il faut, de prendre quand même son sac à dos, sa petite gourde d'eau, enfin voilà, avoir le basique minimum vital, mais c'est pas ça demande pas un brevet en fait de haute montagne pour les faire.
Allez, première balade, on part de quel côté ?
On part au Pic du Gers, c'est peut-être la plus connue à Lourdes, donc c'est aussi une très jolie randonnée. Donc le point de départ se situe près du funiculaire en fait, de la gare du funiculaire en bas, et donc on va monter en fait, il y a du balisage, et donc on va monter environ pendant une heure et demie par les lacets, regagner en fait la route et les chemins qui ramènent jusqu'à le point haut du funiculaire, où on peut là du coup découvrir en fait toutes les vallées environnantes de Lourdes avec des panoramas magnifiques. Donc voilà, partant dégagé, on voit même jusqu'à l'aéroport Terre Lourdes. Voilà, on voit la vallée des Gaves, on voit tout ce qui peut entourer la ville et on comprend mieux la situation géographique de la ville de Lourdes.
Donc là, c'est la montée du Pic du Gers, une heure et demie.
Une heure et demie à peu près, voilà. Alors après, une heure et demie, deux heures, ça dépend si on veut prendre le temps sur une balade bucolique ou sportive. Ensuite, on va partir au lac de Lourdes. Là, on est plus sur une promenade familiale. Donc, c'est un tour qui fait, 6 à 7 kilomètres. Je ne l'ai pas mesuré précisément. Là aussi, c'est encore plus simple, effectivement. Le chemin est facile à trouver, balisé aussi. Et on va longer le lac de Lourdes avec, pour le coup, un enchaînement de panorama très différent. Donc, on va avoir de l'embarcadère, en fait, on va passer par le petit chemin qui va dans le bois. Du chemin qui va dans le bois, on va arriver à la tourbière, donc il y a une zone Natura 2000, une zone classée, en fait, assez intéressante pour son écosystème, en fait, sa faune et sa flore. Après, on va repartir par des petits chemins plus, on va dire, champêtres. On peut retrouver un peu de bétail, quelques habitations. Là, si on s'arrête dans cette partie-là, on a une superbe vue sur le piémont pyrénéen. Donc, selon la saison, l'été, c'est ça, c'est sympa, c'est magnifique. L'hiver, on pourra voir les sommets enneigés des Pyrénées, donc c'est assez majestueux aussi. Et voilà, et tranquillement, on va revenir en fait au parking de l'autre côté. Donc là, on est parti pour pareil, une bonne heure et demie de balade, on va dire, autour du lac.
Voilà, quasiment sans dénivelé. C'est pratiquement plat.
Oui, il y a une petite montée à un moment donné, mais qui est largement faisable, accessible.
Voilà. Troisième balade autour de Lourdes.
Le Béhout, autre pic, on a parlé du Pic du Gers, donc le Béhout qui est juste en face, donc qui est un peu plus bas, hein, puisque Pic du Gers, on est quasiment pas tout à fait à 1000 mètres d'altitude. Le Béhout, on sera, je crois, de mémoire à 700 mètres d'altitude. Donc on voit cette ancienne gare de téléphérique. Donc là, on va partir par le parking de l'avenue Paradis, on va longer le Gave, et là encore par le chemin balisé, faire le tour. Et donc, assez vite, en 10 minutes, se trouver hors de Lourdes, arriver dans la nature, dans les champs, donc sur la vallée de Bat-sur-Guerre, où on trouve les fermes, les élevages. Voilà. Et là, on va par le chemin, donc attaquer la petite colline et monter progressivement, et arriver sur un plateau avec des arbres qui sont superbes. Où là, quand on se retourne, on voit la vallée de Bat-sur-Guerre avec Omex, Ségus, enfin les petits villages autour. C'est superbe, le contrefort pyrénéen. Et quand on remonte un peu plus haut, du coup, on va arriver sur la ligne de crête. Et là, on verra Lourdes en bas, majestueuse, qui s'étale à nos pieds.
Et quand on est en haut, on fait demi-tour, il n'y a pas de boucle.
On fait demi-tour, on peut descendre par l'autre versant du côté de la cité Saint-Pierre. Il y a un chemin, effectivement. Alors là, il est un peu plus technique que l'allée. Donc voilà, si on n'est pas très rassuré, on revient d'où on est parti. Si on est un peu aventurier et en bonne condition, effectivement, on peut attaquer la descente côté cité Saint-Pierre. Et par la cité Saint-Pierre, redescendre au parking, en fait, en bas, vers l'avenue du Paradis.
Voilà pour la balade au Béhout, le quatrième endroit.
Le quatrième, bon, celui-là, il est assez facile, c'est le chemin de Bernadette, en fait, qui amène à Bartrès. Donc, l'idée, c'est de partir, bien sûr, du sanctuaire quand on est à Lourdes, et de remonter. Donc, le chemin, là aussi, est balisé. C'est pas un itinéraire qui va être extrêmement long, hein, ça fait à peu près 5 km de distance. Et bon, c'est un chemin qui est souvent emprunté aussi par les visiteurs, les voyageurs, les pèlerins qui aiment bien se rendre à Bartrès pour marcher un peu sur les traces de Bernadette. Et on va monter sur cette petite colline qui est Bartrès, qui domine Lourdes avec des vues magnifiques. Et on pourra bien sûr aller retrouver un peu l'histoire de Bernadette, des lieux où elle a pu vivre ou séjourner.
Et enfin, la dernière balade.
Alors la dernière, c'est une qu'on met peut-être pas trop souvent en avant, qui est un peu plus confidentielle, mais c'est le trajet de Lourdes en fait à Arcisac-Esangles en passant par Enclade. Donc là, on va quitter Lourdes en fait par le trinquet du Tidos, on va passer par le Pigeonnier en montant un peu, on va redescendre direction l'église Sainte-Bernadette d'Enclade. Donc là, on est encore sur la thématique de Bernadette quelque part, et on poursuit en fait par un petit chemin qui va couper la route de Julos. On va aller vers Les Angles, on arrive à Arcisac-Esangles. Là, il faut traverser la route. Il y a un passage qui trace la route. Il y a un chemin qui part dans le champ en face. Et on va rejoindre Lézignan, à nouveau Enclade, et on revient sur Lourdes. Donc, ça fait une petite boucle, en fait, dans cette vallée de la route de Bagnères. Et c'est la même chose. C'est assez bucolique, assez pittoresque. On voit des petits villages, des petits cours d'eau. On va trouver des fermes. On va trouver des élevages. Donc, on va croiser des ânes, des chevaux, des vaches, des moutons. Enfin, voilà, c'est assez sympathique. Et on est sur une randonnée qui, bon, là, est un peu plus longue, elle fait 12 km, mais il n'y a pas de gros dénivelé. Donc si on a, on va dire, allez, 2h30, 3h de temps à passer en famille, c'est très agréable.
Voilà, 5 propositions de balades et de sorties autour de Lourdes, avec différentes propositions, hein, le Pic du Gers, le Béhout, le lac, la Batte-sur-Guerre et puis la vallée d'Arcisac. Voilà, on peut aussi le faire en vélo.
Alors, une partie de ça peut se faire en vélo, peut-être pas le Béhout ou le Pic du Gers, mais par contre, côté Arcisac, effectivement, on peut trouver d'autres randonnées sur le site de l'Office de Tourisme.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, évidemment, avec le site de l'Office de Tourisme de Lourdes. Et moi, je vais vous remercier, Laurent, et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Balade en Pays de Lourdes. Merci.
Merci Gilles, à bientôt à Lourdes.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Présence à Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
L'Europe au chevet de l'Ukraine ce mardi, quatrième anniversaire de l'invasion.